Quand on est un parent coach ou non, on veut que nos jeunes sportifs déploient leur plein potentiel, progressent vers l'atteinte des meilleurs résultats possibles, qu'ils s'amusent évidemment et qu'ils aiment le sport pour toujours. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des façons de faire pour amener le sport à influencer le développement de l'intelligence émotionnelle chez les enfants et les amener vers un meilleur équilibre entre l'aspect technique du sport et l'aspect émotionnel. À travers mes rencontres avec des passionnés de sport ou des gens actifs, on parle de leur histoire et de ce que le sport leur enseigne pour toute la vie. Je suis Annie Lavoie, votre conseillère en pédagogie sportive, et bienvenue à La vie, c'est du sport. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter mon invité. Il s'agit de Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, mais également conférencier, auteur. Plusieurs chapeaux pour ce grand homme qui a travaillé avec de nombreuses personnalités de partout à travers le monde. Bonjour Sylvain.
Bonjour Annie.
Comment vas-tu?
Très bien, toi?
Très bien, merci d'emblée, Sylvain. Merci de ton temps aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir parce que j'avais hâte que nos téléspectateurs et nos auditeurs entendent les conseils que tu as à nous donner, l'expérience que tu as. C'était vraiment important pour moi de t'avoir dans l'émission parce qu'on traite évidemment des besoins psychologiques du sport à travers notre émission, mais aussi de ce que le sport nous amène dans la vie également. Et je sais que tu as écrit de nombreux livres, Sylvain, et notamment, tu en as écrit un qui s'appelle « Le hockey, c'est dans la tête ».
Ouais.
Cette ligne-là, on l'entend très souvent, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire? On se dit, ben c'est relié à la force mentale, mais dans le fond, si on gratte un petit peu, là, comment on fait pour l'avoir, cette force mentale-là? C'est si facile à dire.
C'est comme dans les boys, la dureté du mental.
Voilà.
Mental toughness. En fait, j'ai écrit « Le hockey, c'est dans la tête », mais Annie, j'aurais pu écrire n'importe quel projet, n'importe quelle chose qui nous arrive dans la vie commence dans notre tête et ensuite dans notre cœur. Puis ensuite, c'est de s'assurer que les deux sont intimement reliés et tous les deux, nos vies se sont entrecroisées quelques fois. Et je suis très heureux d'être là avec toi ce matin parce que je pense qu'on a beaucoup d'intérêts en commun. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés à quelques reprises auparavant. Tu es une spécialiste des émotions, une spécialiste dans le coaching des jeunes, dans une passion qui est le sport. Et ton émission s'appelle... En fait, le sport est pour la vie. Pour la vie, il y a pour la vie, pour avoir plus de vie dans sa vie, pour la vie, pour toute la vie. Et aujourd'hui, je pourrais dire que la vie est aussi du sport. Dans le sens qu'on vit des moments difficiles et le sport sert à développer notre identité. On sait qu'en bas âge, les enfants vont développer leur identité en grande partie au niveau génétique. Donc, ils ont reçu une partie de leur personnalité qui leur vient de leurs parents. Puis une partie de leur personnalité vient du fait qu'ils le développent avec les gens qui les entourent. Donc, quand tu me poses la question, le hockey, c'est dans la tête, ce qui fait la différence dans différents athlètes de haut niveau, c'est pas le talent. Le talent, il est là dans la majeure partie d'entre eux parce que c'est la raison pourquoi ils sont là. Ce qui les démarque, c'est comment ça se passe dans leur tête et surtout dans leur soliloque. Le soliloque, c'est ma conversation interne. Donc, la petite parole qui me parle toujours à l'intérieur et on se parle toujours à soi-même. Donc, quand je demande aux gens, est-ce qu'il y en a qui parlent tout seul? Et je suis heureux de voir qu'il y en a qui lèvent la main. Je leur dis, Annie, bravo à vous, ce que vous pensez. Parce que penser, c'est se parler à soi-même. Donc, c'est notre conversation interne. Et notre conversation interne va développer trois aspects importants, mais très, très importants, de comment je vais agir dans la vie, qui est l'estime de soi. Donc, quelle est la valeur que je me donne? La confiance en moi. Qu'est-ce que je crois être capable de faire? Quelles sont mes capacités? Ensuite, l'image de moi. Comment l'influence des gens autour de moi vient de changer? Comment moi, je me perçois? Et tout ça, c'est augmenté par une seule petite chose, ça s'appelle l'amour de soi. Donc, quand cet amour-là, elle est profonde pour soi-même, on peut se donner une bonne valeur, on peut essayer des choses parce que notre vie ne dépend pas du jugement des autres, mais de nous. Et quand on a cet amour de soi-là, bien, l'amour que les autres nous portent est importante, mais pas aussi importante que celle qu'on se porte à soi-même. Donc, on ne fait plus les choses pour être aimé, mais on fait les choses simplement pour être. Et les gens qui vous aiment vont vous aimer comme vous êtes. Et ça, c'est le plus grand geste de générosité qu'on a entre deux êtres humains, c'est de dire à l'autre, ne change rien, je t'aime comme t'es.
Bon, c'est vraiment intéressant et puissant ce que tu apportes, Sylvain. Même dans les bases de l'intelligence émotionnelle, la connaissance de soi, l'amour de soi, c'est un des piliers. Donc, ce que j'en comprends, c'est que tu as toi aussi le même discours. Et dans tes conférences, Sylvain, tu apportes quelque chose de vraiment intéressant. J'aimerais ça que tu le racontes. À un moment donné, tu fais serrer les gens par la main. Raconte-nous pourquoi tu fais ça. En fait, explique ça.
Je demande aux gens de donner la main à quelqu'un à côté d'eux. Là, maintenant, on ne peut pas le faire avec la distanciation, mais je dis aux gens, OK, prenez une personne à côté de vous, donnez-lui la main. Et là, je leur dis, bon, mais maintenant, il y a une application sur mon cellulaire qui dit qu'au moment où je vais peser dessus, vous allez être pris avec cette personne-là pour le reste de vos jours. Vous ne serez plus jamais à même de vous en séparer. Donc là, les gens ont un état de panique. Ils souhaitent que la personne à côté d'eux soit une personne gentille, aimable, joli ou beau.
Les mains propres.
Les mains propres. Bienveillante. On souhaite tout ça. Et là, je leur dis, laissez la main de la personne et prenez vos deux mains ensemble comme ça. Et là, je dis aux gens, la personne à qui vous tenez la main en ce moment, je vous garantis, elle, vous êtes pris avec elle jusqu'à la fin de vos jours. Est-ce que cette personne-là est votre meilleure amie? Et très souvent, malheureusement, la réponse, c'est non. Parce qu'on est excessivement dur avec soi-même. Donc, jamais on parlerait aussi durement à quelqu'un d'autre comme on se parle à soi. Et surtout, lorsque quelqu'un, ça va mal. Quand ça va mal pour quelqu'un d'autre, la première chose qu'on va faire, on va dire à la personne, ça va être correct. Je suis certain que tu vas t'en sortir. Tu es capable. J'ai tellement confiance en toi. Je t'aime tellement. Je vais t'aider à supporter et à passer à travers cette épreuve-là. Mais quand c'est nous, on ne se le dit pas. Et pourtant, c'est à nous d'être capables de s'en sortir. Et tantôt, tu disais la connaissance de soi, c'est le premier pas à faire. Le deuxième pas, c'est de se pardonner à soi. Se pardonner pour être capable d'avancer et de laisser de côté les choses qui nous ont blessés. Donc, Annie, notre vie, elle est faite de temps. Okay? On est né une date et on va mourir une autre date. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle du vécu. Le vécu, c'est toutes les minutes et les secondes de ta vie. Si je te demande de me raconter ta vie, mais sans sauter aucune seconde, c'est impossible. Tu ne te souviens pas de tout. Donc, tu as retenu que quelque chose. Et de ton vécu, il y a du retenu. Le retenu, de façon consciente ou inconsciente, sont associés à des émotions fortes, soit des émotions de bonheur profond, ou soit des émotions de malheur ou de tristesse. Et c'est ces moments-là qu'on se souvient. Et ces moments-là viennent soit rendre notre vie très belle ou soit rendre notre vie un peu comme un enfer. Mmh. Et la seule partie que moi j'ai accès seulement à une partie qu'on appelle le recadrage cognitif. Je peux recadrer de façon consciente les choses qui m'ont blessé et les remettre dans un cadre qui arrête de me faire souffrir. Puis ensuite, je peux passer à l'avenir, au futur, parce que justement, j'ai fait un détachement. Dans le mot détachement et le mot tâche, pour être capable de continuer.
Et Sylvain, tu parles de recadrage, tu parles aussi de se pardonner. Là, on parle beaucoup des athlètes, on peut parler aussi des entraîneurs. En tant qu'entraîneur, on se pardonne peut-être pas les mêmes affaires nécessairement qu'un athlète. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'en tant que parent qui entraîne les enfants, les jeunes sportifs, ben comment on fait justement pour faire ce pas-là, pour se pardonner nos erreurs ou peu importe? Là?
OK. Les gens qui choisissent de devenir entraîneur, coach, les parents qui ont choisi de placer leurs enfants dans le monde du sport, ils le font parce qu'ils veulent que leurs enfants deviennent de meilleures personnes. Ils veulent que l'expérience vécue dans le sport, la persévérance, la coopération, l'estime de soi, la confiance en soi, tout ça, c'est des choses qu'on aura besoin dans notre vie ultérieurement. Quelques-uns d'entre eux, un petit pourcentage, vont peut-être gagner leur vie du sport et la majorité d'entre eux vont emmener le bagage du sport dans leur vie personnelle et professionnelle. Puis ils vont faire des gens qui vont réussir parce qu'ils vont apprécier à donner des efforts pour obtenir quelque chose. Donc, dans la vie, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de pénitence, il y a des conséquences. Donc, on place nos enfants dans ce monde-là. Mm-hmm. Comme instructeur, quand on le fait, c'est parce qu'on veut redonner, c'est parce qu'on veut aider. Donc, les gens qui s'accomplissent, c'est des gens qui ont compris que pour s'accomplir, c'est servir pour réussir. Donc, je sers quelqu'un. La première chose que je dois faire quand je suis instructeur, c'est de me placer en dessous de mes joueurs pour les supporter et non pas au-dessus. Je ne suis pas en train de les diriger, je suis en train de les guider. C'est très différent. Le leadership, ce n'est pas quelque chose que je peux demander, c'est quelque chose qui m'est donné. C'est les autres qui décident de vous suivre. Et il y a deux façons d'obtenir quelque chose de quelqu'un, soit par la peur ou soit par la joie et le plaisir. Je peux faire peur à mes joueurs. Je peux leur dire, si tu ne fais pas ça, il va y avoir des conséquences. Ça s'appelle la culpabilisation. Culpabiliser ou faire sentir ou de penser que la vie, c'est vrai qu'il y a un dominé dominant, ce qui est totalement faux. Ce n'est pas vrai. La façon de rendre quelqu'un plus beau, plus grand, c'est de l'aimer et de lui dire comment on a confiance en elle. Et de lui dire que s'il y a des erreurs, c'est normal, on va apprendre. Et ça s'appelle l'apprentissage. On devient un peu plus sage quand on apprend.
Mais il y a vraiment un lâcher-prise là-dedans, Sylvain, parce que dans le monde du sport, on axe énormément sur les compétences, sur la technique, puis c'est parfait. Mais justement, l'humain est derrière l'athlète en premier. C'est vraiment là où l'entraîneur, comme tu dis, se met en dessous de ses joueurs pour les guider.
C'est... Quand on dit il y a beaucoup d'éléments techniques de l'apprentissage, ça, cette partie-là, c'est la partie facile à apprendre. La partie plus difficile comme parent, un parent, c'est un portefeuille ambulant et qui va supporter ses enfants, OK? Et il doit laisser le rôle de l'instructeur à l'instructeur. Quand je suis un parent, mon rôle, c'est de supporter et d'écouter mon enfant pour qu'il soit le plus heureux possible, d'avoir le goût de retourner à cette activité-là à chaque fois que ça se présente. Mon rôle en tant qu'instructeur, c'est un rôle extrêmement important, comme un professeur. C'est le rôle le plus important qu'on donne à un individu dans une société, c'est de s'occuper de nos petits. Donc, quand on fait ça, à n'importe quel âge, il n'y a pas d'âge où les enfants ne demeurent pas des enfants, les enfants demeurent des enfants de quelqu'un d'autre toute leur vie, et de leur enseigner, de les aider. Cette partie-là, elle est importante parce que le rôle, c'est de redonner confiance à l'athlète que j'ai. Pour lui redonner confiance, je dois lui permettre de commettre des erreurs et je dois lui permettre d'apprendre de ses erreurs. Et c'est jamais tu, mais nous. Et c'est toujours, je sais que tu as la solution, je vais la trouver avec toi. Donc, on fait toujours participer l'athlète à ce qu'il sente que la solution, elle vient de lui. Moi, je ne fais que le guider. Quand je fais ça, je suis en train d'augmenter sa confiance en lui. Quand j'augmente sa confiance, ben, je lui permets d'atteindre des plus hauts sommets de ce que lui a vraiment le goût de faire.
Sylvain, avec ton expérience, tu en as vu des personnalités sportives, des équipes aussi, des entraîneurs. On parlait d'amour de soi tantôt. Est-ce que tu en as vu des athlètes ou des équipes qui avaient justement, je sais bien qu'on n'atteint pas quelque chose, on coche, c'est fait, c'est une histoire de toute une vie, là. Est-ce que tu connais des entraîneurs ou des équipes qui ont atteint une assez grande amour d'eux autres-mêmes pour finalement réussir à obtenir plus de succès?
93 avec Jacques Demers. Le Canadien de Montréal a gagné la Coupe Stanley en n'étant pas une équipe favorite, mais avec un instructeur qui savait comment parler à ses joueurs puis comment les faire sentir beaux, grands et forts. Un peu comme ma mère me disait quand j'étais petit. Ma mère me disait, pour aller faire une promotion, elle me disait, t'es beau, t'es grand, t'es fort, t'es capable.
T'es capable.
Moi, je l'ai cru jusqu'à temps que je me rende compte que j'étais pas grand. Parce qu'elle disait, t'es grand, t'es fort. Mais c'était un mensonge d'amour de me dire que j'étais grand. Et... c'est un peu la même chose que Jacques Demers se fait en 93 avec son équipe qui était loin d'être favorite. Il leur a donné des ailes. en les aimant, en les supportant, en les défendant, en les protégeant, puis en leur disant que lui, il était certain qu'il allait gagner la Coupe Stanley. C'est ce qui est arrivé. J'ai eu la chance de travailler avec plusieurs athlètes dans ma vie et j'ai eu la chance de parler avec Lars Seller qui est déménagé maintenant à Washington. Mm-hmm. Et j'ai eu la chance de parler avec Ovechkin et il me dit « Thank you for helping my friend Lars ». Et moi, ma réponse était « And you, what can I do for you ?» Il dit « What do you mean ?» Je dis « Ask and you shall receive ». Tu sais, demande puis tu vas recevoir.
Mm-hmm.
Il dit « J'aimerais gagner la Coupe Stanley ». J'ai dit « C'est simple. Chaque matin, quand tu rentres dans le vestiaire, demande-toi comment tu peux être le meilleur coéquipier pour tous tes coéquipiers, puis tu vas soulever la Coupe Stanley. » Je lui ai dit au mois de novembre, puis au mois de juin, il soulevait la Coupe Stanley. Donc, ça vient beaucoup du fait qu'une équipe est formée de gens différents. Le dernier livre que j'ai écrit s'appelle « La puissance de nos différences ». On a vu pendant 16 années d'affilée avec Christina Vestavi, imaginez une femme qui était au Brésil, et que la NBA ont engagé pour être docteur en psychologie. Une femme dans la NBA. Et pendant 16 ans, elle a prouvé que les équipes qui avaient gagné des championnats étaient composées de plus de types de personnalités variées. Donc, dans une équipe, il faut avoir des gens très différents. Mais surtout, avant tout, apprécier leurs différences. Parce que c'est dans nos différences que se cache notre puissance. Si nous étions tous exactement pareils, on n'aurait rien, on pourrait arriver à rien. On arrive à quelque chose dans la vie lorsqu'on est avec des gens qui sont différents de nous et qui nous font évoluer, et vice-versa. Donc, quand les gens me disent « Hey Sylvain, je veux partir en affaires avec Pierre, on est pareil, on pense pareil », je dis « Faites pas ça, vous allez avoir les mêmes forces et les mêmes faiblesses. » Trouvez quelqu'un qui va avoir des opinions et des points de vue différents. Et quand ça arrive, bien, vous avez plusieurs solutions à un même problème et c'est dans cette solution-là de mise ensemble de nos différences qui fait qu'on est puissant tous ensemble.
Sylvain, tu parles beaucoup de l'influence des autres. Tout à l'heure, tu nous as nommé trois choses, l'estime de soi, la confiance en soi et l'image qu'on projette pour les autres, etc. Donc, ce serait quoi l'importance justement par rapport à notre gestion des relations avec les autres là, dans le sport? Comment on peut utiliser ça comme levier?
L'estime de soi, c'est la valeur que je me donne. Donc, de façon consciente ou inconsciente, on a tendance à se comparer aux autres. L'être humain fait ça constamment. Tu le fais, je le fais, tout le monde le fait. Et plus ma valeur, je me donne élevée, plus il y a des chances que j'aie le courage de m'essayer. Mais si ma valeur, elle est moindre, je n'aurai pas le courage de dire « je suis capable ». Ben non, moi, je ne suis pas capable parce que ma valeur n'est pas assez grande. Et la valeur qu'on a souvent, on va la puiser auprès des autres. De comment les autres vont nous aimer. Donc souvent, on va changer pour l'autre, on va demander pour l'autre, on va faire les choses différemment de peur d'être exclu d'un groupe. Donc, de peur d'être différent. Et pourtant, cette différence-là nous rend plus grands. Elle nous démarque. Hein? Ça le dit, démarquer, se démarquer. Pour me démarquer, il ne faut pas que je sois exactement comme tout le monde. Il faut que je sois différent. Et je vais me démarquer sur certains points. Donc, pour un athlète, il faut trouver ce qui fait de bien. Et dire, on va travailler sur tes forces et non pas sur les faiblesses. Mais dans notre société, on adresse toujours les problèmes. On n'adresse jamais ce qui va bien.
Ouais,
ce qu'il faut faire, c'est adresser ce qui va bien et dire, voici tes faiblesses. On va s'occuper de tes faiblesses de façon minime, seulement pour pas qu'ils nuisent. Parce que je n'ai jamais vu personne dire, ah, moi, je suis tellement bon dans ça, mais j'haïs tellement ça.
Non, mais surtout dans le sport, on a tendance vraiment à mettre l'accent sur « on va travailler ce qui ne marche pas ».
C'est ça. Mais il ne faut pas faire ça. Parce que lorsqu'on fait ça, on devient médiocre. Si moi, je travaille une faiblesse, je vais devenir correct, mais je ne peux pas être « outstanding », je ne peux pas me démarquer. Je me démarque dans quelque chose que je suis déjà excellent. Donc, quand les jeunes ils me disent « Hey, Doc, j'aimerais ça jouer dans la Ligue nationale », mais souvent, ils ne disent pas ça, ils sont gênés. Ils vont dire « J'aimerais ça jouer le plus haut possible au hockey ». Fait que là, je dis « OK, le plus haut, c'est pourquoi, c'est quoi, c'est toi ?» C'est puis oui, 2B, c'est quoi plus haut plutôt pour toi ?» Je veux dire « Le plus haut, là, je veux dire dans la Ligue nationale, ouais, c'est ça, je veux dire. Non, mais OK, si tu veux te rendre à un endroit, il va falloir que tu sois exactement précis sur où tu veux aller. Donc, c'est là que tu veux aller. Maintenant, comment on remarque les gens dans la Ligue nationale? on va les remarquer sur ce qui se démarque. Donc, moi, quand ils viennent me dire, je me dis, OK, mais c'est quoi que tu es très bon? Ils vont me dire, ah, je patine très, très vite. Ou toi, tu es dans le monde du baseball. Ils vont dire, je cours très, très vite. Je vois le début. OK, parfait. À partir de demain matin, pratique-toi à courir encore plus vite. Parce qu'ils vont te remarquer sur ce que tu es excellent, pas sur ce que tu n'es pas bon. Adresse tes faiblesses pour pas qu'ils soient une nuisance, mais passe pas trop de temps là. Il n'y a personne qui devient outstanding dans leurs faiblesses. On devient outstanding dans ce qu'on est déjà excellent. Donc, il faut mettre, et ce qui arrive lorsqu'on fait des choses qu'on est excellent, bien, on reçoit plein de compliments et ça nous rend heureux. Et quand on est heureux, on performe mieux. On performe mieux quand on est heureux. Exact. Et il n'y a personne qui est bon dans tout, là. Moi, quand j'entends dire, ah, ça, c'est un joueur complet, c'est parce qu'on n'a pas trouvé de qualité.
C'est bon ce que tu dis, par exemple. Mais est-ce que tu es en mesure, pour les gens qui nous écoutent, Sylvain, justement, de dire que tu as constaté que même dans les ligues majeures, peu importe que ce soit la Ligue nationale ou autre, que finalement, il y en a des gens qui en fait, c'est possible d'assez travailler sur soi pour atteindre du succès, justement, en ayant travaillé sur l'amour de soi, la confiance en soi, son estime. Bien, donc, ça arrive à du vrai monde, ça, là.
Tous ceux qui se retrouvent là ont un bagage d'une passion qui est tellement puissante qu'ils vont développer cette partie-là. Parce que tu ne te rends pas dans un endroit aussi difficile en t'abaissant et en t'autodétruisant constamment. Mm-hmm. Tu te rends là parce qu'en dedans de toi, il y en a une force puissante qui dit « je sais que je suis capable » parce que si tu ne le crois pas, ça ne peut pas arriver. Donc, ils vont le croire profondément. Maintenant, les équipes de ce haut niveau-là sont des équipes fabriquées de spécialistes. Chaque personne a une spécialité sur laquelle il se démarque.
Ouais.
Il a un rôle précis. Donc, chacun a un rôle à jouer à l'intérieur de cette équipe-là. Mais c'est la même chose dans la vie. On prend la vie et on fait un travail ensemble. Mais chaque personne va avoir son rôle, ses tâches, puis ce qu'il devrait faire. Donc, c'est un peu la même chose dans le monde du sport que dans la vie de tous les jours. C'est la même chose. Tu sais, pour être un bon instructeur, il faut être des bons parents. Moi, je dis qu'un instructeur, ça se compare souvent à un parent.
Ben, exact. Notre bonne amie Nancy Doyon disait qu'un parent coach, en fait, tous les parents sont coachs.
Exact. Mais indirectement, souvent, on va demander à un parent de coacher, puis ça, puis c'est normal parce qu'on n'a pas assez de bénévoles qui vont le faire, puis on a besoin de parents. Mais au-delà de ça, dans tous les coachs se cachent deux parents. Le père qui est souvent, là, je le prends de façon vraiment, c'est un exemple, c'est pas nécessairement vrai partout que c'est le père qui est comme ça, puis la mère est comme ça, mais on dit souvent du père, c'est l'autorité paternelle de ce qu'on reconnaît dans la psychologie. Comme étant celui qui donne la direction et qui donne les guides, les balises. Du côté de la mère, c'est celle qui va s'occuper du côté du cœur. Donc, le père, le côté de la tête, structuré, organisé, réaliste. La mère, elle, va faire en sorte qu'elle va prendre l'enfant, elle va l'aimer, elle va lui donner de l'amour pour s'occuper du côté du cœur. Et dans chaque instructeur, on a besoin un peu des deux. On a besoin d'avoir une partie où on dit ce qu'on désire. Puis il faut être assez précis. Parce que lorsqu'on n'a pas de discipline dans une activité ou dans une vie, un jour, c'est les autres qui décident pour nous. Les gens qui n'ont pas d'autodiscipline pour atteindre les choses qu'ils désirent faire, un jour ou l'autre, leur vie va être guidée par quelqu'un d'autre. Parce qu'ils n'ont pas eu la discipline, la persévérance et surtout la force de se rendre jusqu'où. Si c'était facile, tout le monde réussirait là. Si c'était facile, là, tout le monde pourrait réussir. Et tu sais, dans le livre Le Secret, là, tu l'as vu, tout le monde a lu ce livre-là, ou presque. Là. Il y a 1 million de personnes qui l'ont lu au Québec. Le secret, je vais te le dire, Annie, le secret, Annie. Le secret, c'est lève ton cul puis grouille-toi. Pas personne qui réussit en se pognant le derrière. C'est très, très rare, à moins que tu sois né avec des parents très riches qui t'ont tout légué, et ça, c'est malheureux parce que ça ne permet pas de développer qui t'es vraiment.
Ça ne veut pas dire que tu vas travailler non plus.
Non, exactement, mais ça, c'est triste parce que c'est un peu comme une anecdote qui a déjà été contée récemment. Quelqu'un qui est né au troisième but, là, mais c'est ça, c'est un peu moins drôle que quand c'est toi qui l'as mérité, en fait, totalement. Et c'est de laisser la chance à nos enfants de commettre des erreurs, de se cogner le nez, de le faire qu'on les fait grandir. Mm-hmm. Quand on les protège tous, ce n'est pas la vraie réalité. Puis ils ne développent pas les outils nécessaires à faire face aux tempêtes que notre vie nous amène.
Bien, tu as écrit un livre là-dessus, d'ailleurs. En fait, je fais le lien, là, anxiété, soit mon invité. Ouais. C'est un peu ça aussi, le fait de ne pas laisser notre enfant marcher le chemin aussi, à quelque part. Bien, ça a un lien, je pense. Hein?
Oui, dans l'anxiété, sur mon invité, c'est qu'on vit dans une société où on a beaucoup d'anxiété en ce moment et de plus en plus jeune. Et l'anxiété, plus j'en ai peur, plus elle grandit. C'est une force. Donc, plus j'y résiste, plus elle grandit. Il faut que je l'invite pour être capable de l'apprivoiser et surtout de dédramatiser la situation. Souvent, l'anxiété qu'on a, c'est une anxiété d'anticipation de quelque chose qui va nous arriver. Mais si on dédramatise les situations, on est capable, doucement, d'avoir un meilleur contrôle sur notre stress, l'anxiété, l'angoisse, les crises de panique, puis etc.
Mais est-ce que tu le vois, ça, Sylvain, dans tes rencontres que tu fais, versus aujourd'hui, il y a 10 ans, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été là ou...
C'est quelque chose qui est de plus en plus présent, l'anxiété, parce qu'on est dans une société de performance à outrance. Maintenant, la performance, on met beaucoup d'accent sur la performance et au détriment de beaucoup de choses. Donc, on veut tous avoir plus. On veut tous, on désire, on est dans le désir constamment. Et on oublie ce qu'on a déjà. Donc, on ne célèbre pas nos petites victoires parce qu'on est trop pressé, parce qu'on pense que le temps, c'est de l'argent. Fait qu'on court après quelque chose qui jamais on va l'atteindre. Et pourtant, on court après quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Mm-hmm. Et cette sérénité d'apprécier ce qu'on a et le moment présent ici, maintenant. Mais quand on court constamment à quelque chose qu'on désire, eh bien, il y a une différence entre le désir et le besoin. Le besoin, mm-hmm. c'est qu'est-ce que j'ai vraiment besoin pour être heureux et qu'est-ce que je désire vraiment et pas nécessairement une nécessité. Donc, je finis par vivre ma vie avec pas les choses essentielles, mais des choses plutôt artificielles qui ne laissent au fond qu'un vide énorme. Donc, lorsque j'atteins cette partie-là, puis quand je t'en parle et je dis aux gens, à partir de ma formation puis qui je suis, c'est pas parce que je suis mieux que vous autres, là. Je dis toujours aux gens, Annie, c'est parce que c'est moi le plus fucké. Si je n'étais pas le plus fucké de la gang, j'en parlerais pas. Les gens qui sont heureux de façon, qui ont le bonheur facile, ils ne parlent jamais du bonheur. C'est tellement naturel pour eux que c'est là. Ceux qui sont malheureux cherchent le bonheur. Ceux qui sont déjà heureux, ils n'ont pas le temps de le chercher, il est déjà là. Fait que c'est le bonheur, ce n'est pas le bonheur, mais la bonheur. Hein, l'heure qu'on passe avec eux, ceux qu'on aime, heure et eux, mettez ça ensemble, ça fait heureux. Puis les gens heureux n'ont pas le temps d'être malades parce que ce n'est pas la maladie, mais le maladie, pas avec des mots, mais avec des mots MOTS. Là, je sais, les gens disent waouh, Sylvain, il n'est pas juste un sexe symbole.
Je sais, il est censé.
Mais Annie, tout ça, on pourrait en parler des heures et des heures parce que c'est à la base de notre enfant. On l'aime, on veut lui donner le mieux. Et aussi, il faut le laisser vivre certaines expériences pour qu'il puisse développer sa force de caractère.
Et sa résilience, parce que j'adore de l'adversité, c'est ça qu'on connaît dans le sport.
Bien, j'espère qu'il va avoir de l'adversité.
Oui.
Parce que l'adversité va lui permettre plus tard d'être capable de faire face à d'autres types d'adversités.
Exact. Et Sylvain, j'avais une question tout à l'heure qui me ramenait. Tout à l'heure, on parlait de travailler pour réussir, pour jamais lâcher, pour réussir à atteindre ses objectifs. Et comment on fait justement pour accompagner nos jeunes pour qu'ils restent assidus et motivés? C'est la motivation, je me rends compte avec les rencontres que j'ai, que c'est vraiment un enjeu. Comment on reste assidu? Comment on reste motivé? Moi, la constance, je te dis que j'ai un rapport amour-haine avec ça. Mais au niveau de la motivation, comment on fait pour garder nos jeunes assidus au travail et les garder motivés?
On va regarder le mot motivé, ce que ça veut dire. Le mot motivé, dans le mot motivé, il y a le mot motif. Mm-hmm. Le motif, c'est quelle est la raison de, le pourquoi. Donc, c'est la finalité. Donc, ma motivation, elle se cache dans le but à atteindre. si le but à atteindre n'est pas assez grand et puissant pour me faire vivre l'émotion que je vivrai quand j'y serai, elle ne sera jamais assez grande pour m'amener jusque-là. Donc, je dois regarder quel est le but que j'ai mis. Et le but que j'ai mis, il doit être vraiment spécifique. Je dois être capable de le mesurer et de presque le toucher pour l'atteindre. Il doit être amusant.
Sylvain, t'es la première personne qui, quand elle parle d'objectif, me dit, ben, faut que quand je vais atteindre mon objectif, il y a une émotion qui vienne avec, puis que ce soit amusant. Alors que dans ma tête, on fait du sport justement pour le plaisir, puis à partir du moment où tu ne t'amuses plus, ben.
Il y a deux plaisirs qu'on a, celui de le performer et celui de la satisfaction de l'avoir réussi. Donc, oui, j'ai du plaisir à le faire dans le chemin pour m'y rendre et ça me garde motivé. Ça, c'est cet amusement-là qui fait que je réussis constamment. Mais à la toute fin, quand j'atteins l'objectif voulu, il faut que je sois surtout heureux de l'avoir fait et d'une satisfaction, d'une fierté de l'avoir obtenu. Ça, c'est extrêmement puissant parce que c'est ce qui va me donner tous les efforts que je devrais faire pour y arriver. Et le mot effort, tu cherches dans le dictionnaire, ça dit que c'est d'être capable de passer à travers des étapes difficiles. Donc, il y a des étapes difficiles. Si tout le monde pense qu'ils vont y arriver facilement, ça n'arrivera pas comme ça. Par contre, si c'est vraiment puissant, ce que je désire vraiment, vraiment, là, si mon enthousiasme, parce que le but, ce que ça m'amène, il faut que ça génère de l'enthousiasme. S'il n'y a pas d'enthousiasme, je vais le lâcher. Donc, cette partie-là d'être un bon vendeur pour soi-même. Moi, je dis toujours, vends-toi ton propre projet. Vends-les, parce que les enfants, là, c'est des bons vendeurs. Quand ils veulent de quoi, ils te le vendent en tabarouette.
Ouais. Donc,
moi, quand les gens disent, hey, Doc Guimond, vous êtes un excellent vendeur, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. Parce que si je suis un bon vendeur, c'est parce que je suis enthousiaste. Parce que surtout, je veux te servir, je veux t'aider, puis je veux qu'on réalise ce projet-là ensemble. Donc, dans cette persévérance, puis dans cette constance de travailler fort, ça sera jamais tout le temps facile. On dit souvent, tu sais, il y a des sacrifices. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un sacrifice quand ce que j'ai à faire, ça va m'amener tellement de joie, de bonheur. Parce qu'en bout de ligne, là, faut pas se le cacher, il y a deux types de motivation. Celle intrinsèque qu'on fait pour soi-même, puis celle qu'on fait pour impressionner les autres, qui est une motivation extrinsèque de reconnaissance, d'appartenance, de sentir qu'on est envié, que les gens nous respectent, que les gens... Il n'y a personne qui est indifférent à être critiqué ou à être félicité, personne. Même pas les athlètes de plus haut niveau. Donc, quand on réussit quelque chose puis qu'on se le fait dire, ça fait plaisir à tout le monde. Et quand les gens nous critiquent, peu importe à quel endroit, ça nous fait de la peine. C'est ça, l'être humain. L'être humain est un être sociable qui a besoin des autres. Puis en ce moment, avec la pandémie, on s'en rend compte de plus en plus. On est une drôle de bébite qui regrette ce qu'il avait que lorsqu'il le perd.
Exact, tout à fait. Sylvain, en terminant, deux dernières questions. Quel conseil donnerais-tu à un entraîneur justement pour atteindre plus de succès avec sa troupe ou avec son athlète? Parce qu'on peut parler de sport individuel.
Premièrement, donner des conseils, je ne sais pas si je suis capable de faire ça parce que je ne suis pas mieux que qui que ce soit. Hein? Mais si j'étais à leur place, hein? Je pense que l'athlète a besoin de sentir qu'on l'aime, qu'on l'apprécie et que c'est à nous de le faire shiner. C'est à nous de le faire sentir comment il est important. Et ça se fait en lui disant, hey, je suis là avec toi. Et un athlète, c'est comme une fleur. On ne peut pas tirer dessus pour qu'elle pousse plus vite. Donc, il va apprendre à son rythme. Et je dois respecter ce rythme-là. Moi, en tant qu'instructeur, je suis un jardinier. Je dois donc m'assurer de le mettre dans de la bonne terre. Ce qui veut dire que je l'entoure, je nourris ce qu'il a besoin pour grandir. Je l'arrose, puis j'y perds la fleur.
Oui, c'est vrai.
La fleur grandit, puis un jour, on se retrouve avec un beau jardin parce qu'on a plusieurs fleurs différentes dans notre équipe. Donc, un vrai bon coach, c'est un jardinier incroyable qui enlève les mauvaises herbes autour qui sont souvent formées par l'athlète lui-même.
Et à l'athlète, quel conseil donnerais-tu?
Amuse-toi. Amuse-toi. Parce que c'est juste un jeu.
Bien là-dessus, Sylvain Guimond, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de te recevoir à l'émission.
Annie, je veux ajouter une dernière chose, OK? On a-tu 2 minutes?
Bien, certainement.
OK. Tu sais, maintenant, dans ma carrière, j'ai beaucoup plus d'athlètes qui sont dans des... qui sont rendus dans la Ligue nationale, tout ça. Puis je suis des jeunes, tout ça, et j'aime ça. Et quand ils m'appellent, c'est toujours la même chose. Ils vont dire, « Hey, Doc », là, ils vont le dire en anglais souvent, ou en français. « J'ai perdu ma confiance. Ça va pas bien, là. Je suis dans une léthargie. » Et là, je leur dis, « Ah oui, tu joues dans la Ligue nationale. » Et je dis, « On va revenir en arrière. Quand tu avais 12-13 ans, si un jour je t'avais dit que tu serais un joueur de la Ligue nationale, comment tu te serais senti quand tu avais 12-13 ans? Ah, j'aurais été fou comme un balai, j'aurais sauté partout. Bon, ben, j'ai dit, là, ferme ta gueule, puis saute partout parce que t'es rendu. OK? Maintenant, dis-moi qu'est-ce que tu veux qu'on règle ensemble. Je leur ferais prendre conscience d'une première chose. Ça va mal, mais ça va pas si mal que ça. C'est pas la fin du monde, on va dédramatiser. Tu rêvais de jouer dans la Ligue nationale, t'es rendu. Maintenant, il ne faut pas que ton rêve tourne en cauchemar. Sois conscient et jouis de ça, tu l'as mérité. Maintenant, ça va un peu plus mal. Tout finit dans la vie. Même le bonheur, une fois, s'arrête. Le malheur s'arrête. Il y a une fin à tout. Il y a même une fin à notre vie. Donc, il va y avoir une fin à cette liturgie-là du moment où tu ne vas plus te concentrer sur ce qui va mal, mais te concentrer sur ce que tu faisais de bien. Donc, reviens à la base, puis regarde les vidéos que tu as faites en boucle de ceux qui étaient extraordinaires, comment tu es vraiment incroyable comme joueur, parce que c'est là que tu es rendu. Donc, sors tes vidéos, regarde tes vidéos, mais regarde tous ceux que tu faisais bien. Mm-hmm. Mais toi, hey, ça, c'est moi, ça. Hey, you know what? I'm quite good. C'est tout. Ça va se régler de cette façon-là, mais pas en essayant de changer plein de choses. Parce que là, tu penses que ça va mal. Parce qu'un athlète, quand ça va mal, il achète toutes sortes de nouvelles affaires.
Vraiment.
Il est en train de s'éloigner de ce qu'il était. Quand ça va mal, il faut que tu reviennes à ce que tu étais à la base. C'est ça qui t'a permis de réussir. Reviens à la même recette. Ça va fonctionner encore.
Merci beaucoup, Sylvain. Ça a été vraiment apprécié. Puis, à quel endroit on peut te suivre? Dis-nous.
Bon, sylvainguimond.com. Mon courriel, c'est sylvainacommercial@sylvainguimond.com. Puis, mon numéro de cellulaire, là, c'est 514-915-5183. Les gens trouvent ça drôle quand je donne mon numéro de cellulaire. Mais le téléphone, je pensais que c'était fait de parler au monde.
Oh, merci, Sylvain. Il n'y en a pas deux comme toi.
Bye-bye.
Vous avez aimé cet entretien et vous voulez découvrir comment aider vos petits et grands sportifs à développer leur intelligence émotionnelle avec le sport comme outil? Visitez l'offre de conférences et de formations au savoir-être sportif.com. Merci d'avoir été là.